Théophile Gautier, Jettature, chapitre 1. Le Léopold, superbe bateau à vapeur toscan qui fait le trajet de Marseille à Naples, venait de doubler la pointe de Procida. Les passagers étaient tous sur le pont, guéris du mal de mer par l'aspect de la terre, plus efficace que les bonbons de Malte et autres recettes employées en pareil cas. Sur le Tillac, dans l'enceinte réservée aux premières places, se tenaient des Anglais tâchant de se séparer les uns des autres le plus possible et de tracer autour d'eux un cercle de démarcation infranchissable. Leurs figures splénétiques étaient soigneusement rasées, leurs cravates ne faisaient pas un faux pli, leurs cols de chemise roides et blancs ressemblaient à des angles de papier Bristol, des gants de peau de Suède tout frais recouvraient leurs mains, et le vernis de Lord Elliot miroitait sur leurs chaussures neuves. On eût dit qu'ils sortaient d'un des compartiments de leur nécessaire. Dans leur tenue correcte, aucun des petits désordres de toilette, conséquence ordinaire du voyage. Il y avait là des lords, des membres de la Chambre des communes, des marchands de la cité, des tailleurs de Regent Street et des couteliers de Sheffield, tous convenables, tous graves, tous immobiles, tous ennuyés. Les femmes ne manquaient pas non plus, car les Anglaises ne sont pas sédentaires comme les femmes des autres pays et profitent du plus léger prétexte pour quitter leur île. Auprès des ladies et des mistresses, beauté à leur automne, vergetée des couleurs de la coupe rose, rayonnaient sous leur voile de gaze bleue de jeunes miss au teint pétri de crème et de fraises, aux brillantes spirales de cheveux blonds, aux dents longues et blanches, rappelant les types affectionnés par les keepsakes et justifiant les gravures d'outre-manche du reproche de mensonge qu'on leur adresse souvent. Ces charmantes personnes modulaient, chacune de son côté, avec le plus délicieux accent britannique, la phrase sacramentelle « Veni Napoli e poi mori », consultaient leur guide de voyage ou prenaient note de leurs impressions sur leur carnet, sans faire la moindre attention aux œillades à la Don Juan de quelques fats parisiens qui rôdaient autour d'elle, pendant que les mamans irritées murmuraient à demi-voix contre l'impropriété française. Sur la limite du quartier aristocratique, se promenaient, fumant des cigarettes, trois ou quatre jeunes gens, qu'à leur chapeau de paille ou de feutre gris, à leur paletot-sac constellé de larges boutons de corne, à leur vaste pantalon de coutil, il était facile de reconnaître des artistes, indication que confirmaient d'ailleurs leurs moustaches à la Vandyke, leurs cheveux bouclés à la Rubens ou coupés en brosse à la Paul Véronèse. Ils tâchaient, mais dans un tout autre but que les dandys, de saisir quelques profits de ces beautés que leur peu de fortune les empêchait d'approcher de plus près, et cette préoccupation les distrayait un peu du magnifique panorama étalé devant leurs yeux. À la pointe du navire, appuyés au bastingage ou assis sur des paquets de cordages enroulés, étaient groupés les pauvres gens des troisièmes places, achevant les provisions que les nausées leur avaient fait garder intactes, et n'ayant pas un regard pour le plus admirable spectacle du monde, car le sentiment de la nature est le privilège des esprits cultivés, que les nécessités matérielles de la vie n'absorbent pas entièrement. Il faisait beau, les vagues bleues se déroulaient à larges plis, ayant à peine la force d'effacer le sillage du bâtiment. La fumée du tuyau, qui formait les nuages de ce ciel splendide, s'en allait lentement en légers flocons d'ouate, et les palettes des roues, se démenant dans une poussière diamantée où le soleil suspendait des iris, brassaient l'eau avec une activité joyeuse, comme si elles eussent eu la conscience de la proximité du port. Cette longue ligne de collines qui, de Posilippe au Vésuve, dessine le golfe merveilleux au fond duquel Naples se repose comme une nymphe marine se séchant sur la rive après le bain, commençait à prononcer ses ondulations violettes et se détachait en traits plus fermes de l'azur éclatant du ciel. Déjà, quelques points de blancheur, piquant le fond plus sombre des terres, trahissaient la présence des villas répandues dans la campagne. Des voiles de bateaux pêcheurs rentrant au port glissaient sur le bleu uni comme des plumes de cygne promenées par la brise et montraient l'activité humaine sur la majestueuse solitude de la mer. Après quelques tours de roue, le château Saint-Elme et le couvent Saint-Martin se profilèrent d'une façon distincte au sommet de la montagne où Naples s'adosse, par-dessus les dômes des églises, les terrasses des hôtels, les toits des maisons, les façades des palais et les verdures des jardins encore vaguement ébauchés dans une vapeur lumineuse. Bientôt, le château de l'œuf, accroupi sur son écueil lavé d'écume, sembla s'avancer vers le bateau à vapeur et le môle avec son phare s'allongea comme un bras tenant un flambeau. À l'extrémité de la baie, le Vésuve, plus rapproché, changea les teintes bleuâtres dont l'éloignement le revêtait pour des tons plus vigoureux et plus solides. Ses flancs se sillonnèrent de ravines et de coulées de lave refroidies, et de son cône tronqué, comme des trous d'une cassolette, sortirent très visiblement de petits jets de fumée blanche qu'un souffle de vent faisait trembler. On distinguait nettement Chiatamone et Pizzo Falcone et le quai de Santa Lucia, tout bordé d'hôtels, le Palazzo Reale avec ses rangées de balcons, le Palazzo Nuovo flanqué de ses tours à Moucharabi, l'arsenal et les vaisseaux de toutes nations entremêlant leurs mâts et leurs espars comme les arbres d'un bois dépouillés de feuilles, lorsque sortit de sa cabine un passager qui ne s'était pas fait voir de toute la traversée, soit que le mal de mer l'eût retenu dans son cadre, soit que par sauvagerie il n'eût pas voulu se mêler au reste des voyageurs, ou bien que ce spectacle, nouveau pour la plupart, lui fût dès longtemps familier et ne lui offrit plus d'intérêt. C'était un jeune homme de 26 à 28 ans, ou du moins auquel on était tenté d'attribuer cet âge au premier abord, car lorsqu'on le regardait avec attention, on le trouvait ou plus jeune ou plus vieux, tant sa physionomie énigmatique mélangeait la fraîcheur et la fatigue. Ses cheveux d'un blond obscur tiraient sur cette nuance que les Anglais appellent « auburn » et s'incendiaient au soleil de reflets cuivrés et métalliques, tandis que dans l'ombre, il paraissait presque noir. Son profil offrait des lignes purement accusées, un front dont un phrénologue eût admiré la protubérance, un nez d'une noble courbe aquiline, des lèvres bien coupées et un menton dont la rondeur puissante faisait penser aux médailles antiques. Et cependant, tous ces traits, beaux en eux-mêmes, ne composaient point un ensemble agréable. Il leur manquait cette mystérieuse harmonie qui adoucit les contours et les fond les uns dans les autres. La légende parle d'un peintre italien qui, voulant représenter l'archange rebelle, lui composa un masque de beauté disparate et arriva ainsi à un effet de terreur bien plus grand qu'au moyen des cornes, des sourcils circonflexes et de la bouche en rictus. Bien le visage de l'étranger produisait une impression de ce genre. Ses yeux, surtout, étaient extraordinaires. Les cils noirs qui les bordaient contrastaient avec la couleur gris pâle des prunelles et le ton châtain brûlé des cheveux. Le peu d'épaisseur des os du nez les faisait paraître plus rapprochés que les mesures des principes de dessin ne permettent, et quant à leur expression, elle était vraiment indéfinissable. Lorsqu'il ne s'arrêtait sur rien, une vague mélancolie, une tendance languissante s'y peignait dans une lueur humide. S'il se fixait sur quelque personne ou quelque objet, les sourcils se rapprochaient, se crispaient, et modelait une ride perpendiculaire dans la peau du front. Les prunelles de grise devenaient vertes, se tigraient de points noirs, se striaient de fibrilles jaunes. Le regard en jaillissait aigu, presque blessant. Puis tout reprenait sa placidité première, et le personnage à tournure méphistophélique redevenait un jeune homme du monde, membre du Jockey Club, si vous voulez, allant passer la saison à Naples et satisfait de mettre le pied sur un pavé de lave moins mobile que le pont du Léopold. Sa tenue était élégante, sans attirer l'œil par aucun détail voyant. Une redingote bleu foncé, une cravate noire à poil dont le nœud n'avait rien d'apprêté ni de négligé non plus, un gilet de même dessin que la cravate, un pantalon gris clair, tombant sur une botte fine, composait sa toilette. La chaîne qui retenait sa montre était d'or tout unie, et un cordon de soie plate suspendait son pince-nez. Sa main bien gantée agitait une petite canne mince en cèpe de vigne tordue, terminée par un écusson d'argent. Il fit quelques pas sur le pont, laissant errer vaguement son regard vers la rive qui se rapprochait et sur laquelle on voyait rouler des voitures, fourmiller la population et stationner ces groupes d'oisifs pour qui l'arrivée d'une diligence ou d'un bateau à vapeur est un spectacle toujours intéressant et toujours neuf, quoiqu'il l'ait contemplé mille fois. Déjà se détachait du quai une escadrille de canots, de chaloupes, qui se préparait à l'assaut du Léopold, chargé d'un équipage de garçons d'hôtel, de domestiques de place, de facchini et autres canailles variées habituées à considérer l'étranger comme une proie. Chaque barque faisait force de rame pour arriver à la première, et les mariniers échangeaient, selon la coutume, des injures, des vociférations, capables d'effrayer les gens peu au fait des mœurs de la basse classe napolitaine. Le jeune homme aux cheveux auburnes avait, pour mieux saisir les détails du point de vue qui se déroulait devant lui, posé son lorgnon double sur son nez. Mais son attention détournée du spectacle sublime de la baie par le concert de cris aériens qui s'élevait de la flottille se concentra sur les canots. Sans doute le bruit l'importunait, car ses sourcils se contractèrent, la ride de son front se creusa et le gris des prunelles prit une teinte jaune. Une vague inattendue, venue du large et courant sur la mer, ourlée d'une frange d'écume, passa sous le bateau à vapeur qu'elle souleva et laissa retomber lourdement, se brisa sur le quai en millions de paillettes, mouilla les promeneurs tout surpris de cette douleur subite, et fit, par la violence de son ressac, s'entrechoquer si rudement les embarcations que trois ou quatre facchini tombèrent à l'eau. L'accident n'était pas grave, car ces drôles nagent tous comme des poissons ou des dieux marins, et quelques secondes après, ils reparurent, les cheveux collés aux tempes, crachant l'eau amère par la bouche et les narines, et aussi étonnés à coup sûr de ce plongeon, que put l'être Télémaque, fils d'Ulysse, lorsque Minerve, sous la figure du sage Mentor, le lança du haut d'une roche à la mer pour l'arracher à l'amour de Charis. Derrière le voyageur bizarre, à distance respectueuse, restait debout, auprès d'un entassement de mâles, un petit groom, espèce de vieillard de 15 ans, gnome en livrée, ressemblant à ces nains que la patience chinoise élève dans des potiches pour les empêcher de grandir. Sa face plate, où le nez faisait à peine saillie, semblait avoir été comprimée dès l'enfance, et ses yeux à fleur de tête avaient cette douceur que certains naturalistes trouvent à ceux du crapaud. Aucune gibbosité n'arrondissait ses épaules ni ne bombait sa poitrine. Cependant, il faisait naître l'idée d'un bossu, quoiqu'on eût vainement cherché sa bosse. En somme, c'était un groom très convenable, qu'eût pu se présenter sans entraînement aux races d'Ascot ou aux courses de Chantilly. Tout gentleman rider l'eût accepté avec sa mauvaise mine. Il était déplaisant, mais irréprochable en son genre, comme son maître. L'on débarqua. Les porteurs, après des échanges d'injures plus qu'homériques, se divisèrent les étrangers et les bagages et prirent le chemin des différents hôtels dont Naples est abondamment pourvu. Le voyageur au lorgnon et son groom se dirigèrent vers l'hôtel de Rome, suivi d'une nombreuse phalange de robustes facchini qui faisaient semblant de suer et de haleter sous le poids d'un carton à chapeau ou d'une légère boîte, dans l'espoir naïf d'un plus large pourboire, tandis que quatre ou cinq de leurs camarades, mettant en relief des muscles aussi puissants que ceux de l'Hercule qu'on admire au Studi, poussaient une charrette à bras ou ballottaient deux mâles de grandeur médiocre et de pesanteur modérée. Quand on fut arrivé aux portes de l'hôtel et que le padron di casa eut désigné au nouveau survenant l'appartement qu'il devait occuper, les porteurs, bien qu'ils eussent reçu environ le triple du prix de leur course, se livrèrent à des gesticulations effrénées et à des discours où les formules suppliantes se mêlaient aux menaces dans la proportion la plus comique. Ils parlaient tous à la fois avec une volubilité effrayante, réclamant un surcroît de paix et jurant leur grand Dieu qui n'avait pas été suffisamment récompensé de leur fatigue. Paddy, resté seul pour leur tenir tête, car son maître, sans s'inquiéter de ce tapage, avait déjà gravi l'escalier, ressemblait à un singe entouré par une meute de dogues. Il essaya, pour calmer cet ouragan de bruit, un petit bout de harangue dans sa langue maternelle, c'est-à-dire en anglais. La harangue obtint peu de succès. Alors, fermant les poings remenant ses bras à la hauteur de sa poitrine, il prit une pose de boxe très correcte, à la grande hilarité des facchini, et d'un coup droit digne d'Adams ou de Tom Cripps, et porté au creux de l'estomac, il envoya le géant de la bande rouler les quatre fers en l'air sur les dalles de lave du passé. Cet exploit mit en fuite la troupe. Le colosse se releva lourdement, tout brisé de sa chute, et sans chercher à tirer vengeance de Paddy, il s'en alla trottant de sa main, avec force contorsion, l'empreinte bleuâtre qui commençait à briser sa peau, persuadé qu'un démon devait être caché sous la jaquette de ce macaque, tout au plus beau à faire de l'équitation sur le dos d'un chien, et qu'il aurait cru pouvoir renverser d'un souffle. L'étranger, ayant fait appeler le padron di casa, lui demanda si une lettre à l'adresse de M. Paul d'Apremont n'avait pas été remise à l'hôtel de Rome. L'hôtelier répondit qu'une lettre portant cette suscription attendait en effet depuis une semaine dans le casier des correspondances et il s'empressa de l'aller chercher. La lettre, enfermée dans une épaisse enveloppe de papier crimelide, azuré et vergé, scellée d'un cachet de cire aventurine, était écrite de ce caractère penché aux pleins anguleux, aux déliés cursifs, qui dénote une haute éducation aristocratique et que possèdent un peu trop uniformément peut-être les jeunes Anglaises de bonne famille. Voici ce que contenait ce pli, ouvert par M. d'Apremont avec une hâte qui n'avait peut-être pas la seule curiosité pour motif. « Mon cher Monsieur Paul, nous sommes arrivés à Naples depuis 2 mois. Pendant le voyage, fait à petite journée, mon oncle s'est plaint amèrement de la chaleur, des moustiques, du vin, du beurre, des lits. Il jurait qu'il faut être véritablement fou pour quitter un confortable cottage à quelques milles de Londres et se promener sur des routes poussiéreuses bordées d'auberges détestables où d'honnêtes chiens anglais ne voudraient pas passer une nuit. Mais tout en grognant, il m'accompagnait et je l'aurais mené au bout du monde. Il ne se porte pas plus mal, et moi je me porte mieux. Nous sommes installés sur le bord de la mer, dans une maison blanchie à la chaux et enfouie dans une sorte de forêt vierge d'orangers, de citronniers, de myrtes, de lauriers roses et autres végétations exotiques. Du haut de la terrasse, on jouit d'une vue merveilleuse, et vous y trouverez tous les soirs une tasse de thé ou une limonade à la neige, à votre choix. Mon oncle, que vous avez fasciné, je ne sais pas comment, sera enchanté de vous serrer la main. Est-il nécessaire d'ajouter que votre servante n'en sera pas fâchée non plus, quoique vous lui ayez coupé les doigts avec votre bague en lui disant adieu sur la jetée de Folkestone. Alicia W. Chapitre 2. Paul d'Apremont, après s'être fait servir à dîner dans sa chambre, demanda une calèche. Il y en a toujours qui stationnent autour des grands hôtels, n'attendant que la fantaisie des voyageurs. Le désir de Paul fut donc accompli sur le champ. Les chevaux de louage napolitains sont maigres à faire paraître rossinantes, surchargées d'embonpoint. Leurs têtes décharnées, leurs côtes apparentes, comme des cercles de tonneaux, leur échine saillante, toujours écorchée, semblent implorer à titre de bienfait le couteau de l'écarisseur, car donner de la nourriture aux animaux est regardé comme un soin superflu par l'insouciance méridionale. Les harnais, rompus la plupart du temps, ont des suppléments de cordes, et quand le cocher a rassemblé ses guides et fait clapper sa langue pour décider le départ, on croirait que les chevaux vont s'évanouir et les voitures se dissiper en fumée comme le carrosse de Cendrillon lorsqu'elle revient du bal passé minuit malgré l'ordre de la fée. Il n'en est rien, cependant. Les rosses se roidissent sur leurs jambes et après quelques titubations prennent un galop qu'elles ne quittent plus. Le cocher leur communique son ardeur et la mèche de son fouet sait faire saillir la dernière étincelle de vie cachée dans ses carcasses. Cela piaffe, agite la tête, se donne des airs fringants, écarquille l'œil, élargit la narine, et soutient une allure que n'égaleraient pas les plus rapides trotteurs anglais. Comment ce phénomène s'accomplit-il et quelle puissance fait courir ventre à terre des bêtes mortes? C'est ce que nous n'expliquerons pas. Toujours est-il que ce miracle a lieu journellement à Naples et que personne n'en témoigne de surprise. La calèche de M. Paul d'Apremont volait à travers la foule compacte, rasant les boutiques d'aquajolie aux guirlandes de citron, les cuisines de friture ou de macaroni en plein vent, les étalages de fruits de mer et les tas de pastèques disposés sur la voie publique comme les boulets dans les parcs d'artillerie. À peine si les lazzaroni couchaient le long des murs, enveloppés de leurs cabans, daignaient retirer leurs jambes pour les soustraire à la teinte des attelages. De temps à autre, un colicolo filant entre ses grandes roues écarlates passait, encombré d'un monde de moines, de nourrices, de facchini et de polissons, à côté de la calèche dont il frisait les cieux au milieu d'un nuage de poussière et de bruit. Les colicoli sont proscrits maintenant, et il est défendu d'en créer de nouveaux. Mais on peut ajouter une caisse neuve à de vieilles roues, ou des roues neuves à une vieille caisse, moyen ingénieux qui permettent à ces bizarres véhicules de durer longtemps encore à la grande satisfaction des amateurs de couleurs locales. Notre voyageur ne prêtait qu'une attention fort distraite à ce spectacle animé et pittoresque qui eut certes absorbé un touriste n'ayant pas trouvé à l'hôtel de Rome un billet à son adresse, signé Alicia W. Il regardait vaguement la mer limpide et bleue, où se distinguait dans une lumière brillante et nuancée, par le lointain de teinte d'améthyste et de saphir, les belles îles semées en éventail à l'entrée du golfe, Capri, Ischia, Nisida, Procida, dont les noms harmonieux résonnent comme les dactyles grecs, mais son âme n'était pas là. Elle volait à tire-d'aile du côté de Sorrente, vers la petite maison blanche enfouie dans la verdure dont parlait la lettre d'Alicia. En ce moment, la figure de M. d'Apremont n'avait pas cette expression indéfinissablement déplaisante qui la caractérisait quand une joie intérieure n'en harmonisait pas les perfections disparates. Elle était vraiment belle et sympathique, pour nous servir d'un mot cher aux Italiens. L'arc de ses sourcils était détendu. Les coins de sa bouche ne s'abaissaient pas dédaigneusement, et une lueur tendre illuminait ses yeux calmes. On eût parfaitement compris en le voyant alors les sentiments que semblaient indiquer à son endroit les phrases demi-tendres, demi-moqueuses, écrites sur le papier crimelin. Son originalité, soutenue de beaucoup de distinctions, ne devait pas déplaire à une jeune miss librement élevée à la manière anglaise par un vieil oncle très indulgent. Au train dont le cocher poussait ses bêtes, l'on eut bientôt dépassé Chialua, la Marinella, et la calèche roula dans la campagne sur cette route remplacée aujourd'hui par un chemin de fer. Une poussière noire, pareille à du charbon pilé, donne un aspect plutonique à toute cette plage que recouvre un ciel étincelant et que lèche une mer du plus suave azur. C'est la suite du Vésuve, tamisé par le vent, qui saupoudre cette rive et fait ressembler les maisons de Portici et de Torre del Greco à des usines de Birmingham. M. d'Aspremont s'occupa nullement du contraste de la terre d'ébène et du ciel de saphir. Il lui tardait d'être arrivé. Les plus beaux chemins sont longs lorsque Miss Alicia vous attend au bout et qu'on lui a dit adieu il y a 6 mois sur la jetée de Folkestone. Le ciel et la mer de Naples y perdent leur magie. La calèche quitta la route, prit un chemin de traverse et s'arrêta devant une porte formée de 2 piliers de briques blanchies, surmontés d'urnes de terre rouge, où des aloès épanouissaient leurs feuilles, pareilles à des lames de fer blanc et pointues comme des poignards. Une claire voie peinte en vert servait de fermeture. La muraille était remplacée par une haie de cactus, dont les pousses faisaient des coudes difformes et entremêlaient inextricablement leurs raquettes épineuses. Au-dessus de la haie, 3 ou 4 énormes figuiers étalaient par masses compactes leurs larges feuilles d'un vert métallique avec une vigueur de végétation tout africaine. Un grand pin parasol balançait son ombrelle et c'est à peine si, à travers les interstices de ses frondaisons luxuriantes, l'œil pouvait démêler la façade de la maison brillant par plaques blanches derrière ce rideau touffu. Une servante basanée, aux cheveux crépus et si épais que le peigne s'y serait brisé, accourut au bruit de la voiture, ouvrit la claire-voie et, précédant M. d'Apremont dans une allée de lauriers roses dont les branches lui caressaient la joue avec leurs fleurs, elle le conduisit à la terrasse où Miss Alicia Ward prenait le thé en compagnie de son oncle. Par un caprice très convenable chez une jeune fille blasée sur tous les conforts et toutes les élégances, et peut-être aussi pour contrarier son oncle, dont elle raillait les goûts bourgeois, Miss Alicia avait choisi, de préférence à des logis civilisés, cette villa dont les maîtres voyageaient et qui étaient restés plusieurs années sans habitants. Elle trouvait dans ce jardin abandonné et presque revenu à l'état de nature une poésie sauvage qui lui plaisait. Sous l'actif climat de Naples, tout avait poussé avec une activité prodigieuse. Orangers, myrtes, grenadiers, limons s'en étaient donnés à cœur joie, et les branches, n'ayant plus à craindre la serpette de l'ébondeur, se donnait la main d'un bout de l'allée à l'autre ou pénétrait familièrement dans les chambres par quelques vitres brisées. Ce n'était pas comme dans le nord la tristesse d'une maison déserte, mais la gaieté folle et la pétulance heureuse de la nature du midi livrée à elle-même. En l'absence du maître, les végétaux exubérants se donnaient le plaisir d'une débauche de feuilles, de fleurs, de fruits et de parfums. Ils reprenaient la place que l'homme leur dispute. Lorsque le commodore, c'est ainsi qu'Alicia appelait familièrement son oncle, vit ce fourré impénétrable, et à travers lequel on n'aurait pu s'avancer qu'à l'aide d'un sabre d'abattage, comme dans les forêts d'Amérique, il jeta les hauts cris et prétendit que sa nièce était décidément folle. Mais Alicia lui promit gravement de faire pratiquer de la porte d'entrée au salon et du salon à la terrasse un passage suffisant pour un tonneau de Malvoisie, seule conception qu'elle pouvait accorder au positivisme avant-culaire. Le commodore se résigna, car il ne savait pas résister à sa nièce, et en ce moment, assis vis-à-vis d'elle sur la terrasse, il buvait un petit coup, sous prétexte de thé, une grande tasse de rhum. Cette terrasse, qui avait primitivement séduit la jeune miss, était en effet fort pittoresque et méritait une description particulière, car Paul d'Abremont y reviendra souvent et il faut peindre le décor, les scènes que l'on raconte. On montait à cette terrasse, dont les plans à pic dominaient un chemin creux par un escalier de larges dalles disjointes où prospéraient de vivaces herbes sauvages. Quatre colonnes frustes, tirées de quelques ruines antiques et dont les chapiteaux perdus avaient été remplacés par des dés de pierre, soutenaient un treillage de perches enlacées et plafonnées de vignes. Des garde-fous tombaient en nappes et en guirlandes, les lambruches et les plantes pariétaires. Au pied des murs, le figuier d'Inde, l'aloès, l'arbousier poussaient dans un désordre charmant, et au-delà d'un bois que dépassait un palmier et trois pins d'Italie, la vue s'étendait sur des ondulations de terrain semées de blanches villas, s'arrêtait sur la silhouette violâtre du Vésuve ou se perdait sur l'immensité bleue de la mer. Lorsque M. Paul d'Abremont parut au sommet de l'escalier, Alicia se leva, poussa un petit cri de joie et fit quelques pas à sa rencontre. Paul lui prit la main à l'anglaise, mais la jeune fille éleva cette main prisonnière à la hauteur des lèvres de son habit avec un mouvement plein de gentillesse enfantine et de coquetterie ingénue. Le commodore essaya de se dresser sur ses jambes un peu goûteuses et il y parvint après quelques grimaces de douleur qui contrastait comiquement avec l'air de jubilation épanoui sur sa large face. Il s'approcha d'un pas assez alerte pour lui de ce charmant groupe des deux jeunes gens et tenailla la main de Paul de manière à lui mouler les doigts en creux les uns contre les autres, ce qui est la suprême expression de la vieille cordialité britannique. Mais Alicia Ward appartenait à cette variété d'anglaise brune qui réalise un idéal dont les conditions semblent se contrarier, c'est-à-dire une peau d'une blancheur éblouissante à rendre jaune le lait, la neige, le lys, l'albâtre, la cire vierge, et tout ce qui sert au poète à faire des comparaisons blanches. Et des lèvres de cerise et des cheveux aussi noirs que la nuit sur les ailes du corbeau. L'effet de cette opposition est irrésistible, et produit une beauté à part dont on ne saurait trouver l'équivalent ailleurs. Peut-être quelque circassienne élevée dès l'enfance au sérail offre-t-elle ce teint miraculeux, mais il faut nous en fier là-dessus aux exagérations de la poésie orientale et aux gouaches de Lewis représentant les harems du Caire. Alicia était assurément le type le plus parfait de ce genre de beauté. L'ovale allongé de sa tête, son teint d'une incomparable pureté, son nez fin, mince, transparent, ses yeux d'un bleu sombre, frangés de longs cils qui palpitaient sur ses joues rosées comme des papillons noirs lorsqu'elle abaissait ses paupières, ses lèvres colorées d'une pourpre éclatante, ses cheveux tombant en volute, brillantes comme des rubans de satin de chaque côté de ses joues, et son col de cygne, témoignaient en faveur de ces romanesques figures de femmes de Maclise, qui, à l'exposition universelle, semblaient de charmantes impostures. Alicia portait une robe de grenadine à volant festonné et brodée de palmettes rouges, qui s'accordait à merveille avec les tresses de corail et à petits grains, composant sa coiffure, son collier et ses bracelets. Cinq pampilles, suspendues à une perte de corail, à facettes tremblaient au lobe de ses oreilles, petites et délicatement enroulées. « Si vous blâmez cet abus du corail, songez que nous sommes à Naples, et que les pêcheurs sortent tout exprès de la mer pour vous présenter ces branches que l'air rougit. » Nous nous devons, après le portrait de Miss Alicia Ward, ne fût-ce que pour faire opposition, tout au moins une caricature du Commodore et à la manière de Hogarth. Le Commodore, âgé de quelque 60 ans, présentait cette particularité d'avoir la face d'un cramoisi uniformément enflammé, sur lequel tranchaient des sourcils blancs et des favoris de même couleur, et taillés en côtelettes, ce qui le rendait pareil à un vieux peau rouge qui se serait tatoué avec de la craie. Les coups de soleil, inséparables d'un voyage d'Italie, avaient ajouté quelques couches de plus à cette ardente coloration, et le Commodore faisait involontairement penser à une grosse praline entourée de coton. Il était habillé des pieds à la tête, veste, gilet, pantalon et guêtres, d'une étoffe vigogne d'un gris vineux, et que le tailleur avait dû affirmer, sur son honneur, être la nuance la plus à la mode et la mieux portée, en quoi peut-être ne mentait-il pas. Malgré ce teint enluminé et ce vêtement grotesque, le Commodore n'avait nullement l'air commun. Sa propreté rigoureuse, sa tenue irréprochable et ses grandes manières indiquaient le parfait gentleman, quoiqu'il eût plus d'un rapport extérieur avec les Anglais de vaudeville comme les parodies Hoffman ou Levasseur. Son caractère, c'était d'adorer sa nièce et de boire beaucoup de porto et de rhum de la Jamaïque pour entretenir l'humide radical d'après la méthode du caporal Trim. Voyez comme je me porte bien maintenant et comme je suis belle. Regardez mes couleurs. Oh, j'en ai pas encore autant que mon oncle. Cela ne viendra pas, il faut l'espérer. Pourtant ici j'ai du rose, du vrai rose, dit Alicia en passant sur sa joue son doigt effilé terminé par un ongle luisant comme l'agate. J'ai engraissé aussi, et on ne sent plus ces pauvres petites salières qui me faisaient tant de peine lorsque j'allais au bal. Dites, faut-il être coquette pour se priver pendant 3 mois de la compagnie de son fiancé, afin qu'après l'absence, il vous retrouve fraîche et superbe ? Et en débitant cette tirade du ton enjoué et sautillant qui lui était familier, Alicia se tenait debout devant Paul, comme pour provoquer et défier son examen. « N'est-ce pas ? » ajouta le Commodore. « Que l'air robuste à présent et superbe, comme ces filles de Planchina qui portent des enfants grecs sur la tête. »« Assurément, Commodore, » répondit Paul. « Miss Alicia n'est pas devenue plus belle, c'était impossible. Mais elle est visiblement en meilleure santé que lorsque, par coquetterie à ce qu'elle prétend, elle m'a imposé cette pénible séparation. » Et son regard s'arrêtait avec une fixité étrange sur la jeune fille posée devant lui. Soudain, les jolies couleurs roses qu'elle se vantait d'avoir conquises disparurent des joues d'Alicia, comme la rougeur du soir quitte les jours de neige de la montagne quand le soleil s'enfonce à l'horizon. Toute tremblante, elle porte à la main son cœur. Sa bouche charmante et pâlie se contracta. Paul, alarmé, se leva, ainsi que le commodore. Les vives couleurs d'Alicia avaient reparu. Elle souriait avec un peu d'effort. « Je vous ai promis une tasse de thé ou un sorbet. Quoiqu'anglais, je vous conseille le sorbet. La neige vaut mieux que l'eau chaude. Dans ce pays voisin de l'Afrique et où le sirocco arrive en droite ligne. » Tous les trois prirent place autour de la table de pierre, sous le plafond des pampres. Le soleil s'était plongé dans la mer, et le jour bleu qu'on appelle la nuit à Naples succédait au jour jaune. La lune semait des pièces d'argent sur la terrasse par les déchiquetures du feuillage. La mer bruissait sur la rive comme un baiser, et l'on entendait au loin le frisson de cuivre des tambours de basque accompagnant les tarentelles. Il fallut se quitter. Vichel, fauve servante à chevelure crépue, vint avec un falot pour reconduire Paul à travers les dédales du jardin. Pendant qu'elle servait les sorbets et l'eau de neige, elle avait attaché sur le nouveau venu un regard mélangé de curiosité et de crainte. Sans doute, le résultat de l'examen n'avait pas été favorable pour Paul, car le front de Visset, jaune déjà comme un cigare, s'était rembruni encore, et tout en accompagnant l'étranger, elle dirigeait contre lui, de façon qu'il ne pût l'apercevoir, le petit doigt et l'index de sa main, tandis que les deux autres doigts repliés sous la paume se joignaient au pouce comme pour former un signe cabalistique. Chapitre 3. L'ami d'Alicia revint à l'hôtel de Rome par le même chemin. La beauté de la soirée était incomparable. Une lune pure et brillante versait sur l'eau d'un azur diaphane une longue traînée de paillettes d'argent dont le fourmillement perpétuel causé par le clapotis des vagues multipliait l'éclat. Au large, les barques de pêcheurs, portant à la proue un fanal de fer rempli d'étoupes enflammées, piquaient la mer d'étoiles rouges et traînaient après elles des sillages écarlates. La fumée du Vésuve, blanche le jour, s'était changée en colonnes lumineuses et jetait aussi son reflet sur le golfe. En ce moment, la baie présentait cet aspect invraisemblable pour des yeux septentrionaux et que lui donnent ces gouaches italiennes encadrées de noir, si répandues il y a quelques années et plus fidèles qu'on ne pense dans leur exagération crue. Quelques lanzaroni noctambules voguaient encore sur la rive, émus sans le savoir de ce spectacle magique et plongeaient leurs grands yeux noirs dans l'étendue bleuâtre. D'autres, assis sur le bordage d'une barque déchouée, chantaient l'air de Lucie ou la romance populaire alors en vogue, Ti voglio ben assai, d'une voix qu'aurait enviée bien des ténors payés 100 000 francs. Naples se couche tard, comme toutes les villes méridionales. Cependant, les fenêtres s'éteignaient peu à peu, et les seuls bureaux de loterie avec leurs guirlandes de papier de couleur, leurs numéros favoris et leur éclairage scintillant, étaient ouverts encore, prêts à recevoir l'argent des joueurs capricieux que la fantaisie de mettre quelques carlins ou quelques ducats sur un chiffre rêvé pouvait prendre en rentrant chez eux. Paul se mit au lit, tira sur lui les rideaux de gaz de la moustiquaire et ne tarda pas à s'endormir. Ainsi que cela arrive aux voyageurs après une traversée, sa couche, quoique immobile, lui semblait tanguer et rouler, comme si l'hôtel de Rome eût été le Léopold. Cette impression lui fit rêver qu'il était encore en mer, et qu'il voyait sur le môle Alicia très pâle, à côté de son oncle cramoisi, qui lui faisait signe de la main de ne pas aborder. Et le visage de la jeune fille m'exprimait une douleur profonde, et en le repoussant, elle paraissait obéir, contre son gré, à une fatalité impérieuse. Ce songe, qui prenait d'image toute récente une réalité extrême, chagrina le dormeur au point de l'éveiller, et il fut heureux de se retrouver dans sa chambre, où tremblotait avec un reflet d'opale une veilleuse illuminant une petite tour de porcelaine qu'assiégeaient les moustiques en bourdonnant. Pour ne pas retomber sous le coup de ce rêve pénible, Paul lutta contre le sommeil et se mit à penser au commencement de sa liaison avec Miss Alicia, reprenant une à une toutes ces scènes puérilement charmantes d'un premier amour. Il revit la maison de briques roses, tapissée d'églantiers de chèvrefeuilles, qu'habitait à Richmond Miss Alicia avec son oncle, et où l'avait introduit à son premier voyage en Angleterre une de ces lettres de recommandation dont l'effet se borne ordinairement à une invitation à dîner. Il se rappela la robe blanche de mousseline des Indes, ornée d'un simple ruban, qu'Alicia, sortie la veille de pension, portait ce jour-là, et la branche de jasmin qui roulait dans la cascade de ses cheveux comme une fleur de la couronne d'Ophélie, emportée par le courant, et ses yeux d'un bleu de velours, et sa bouche un peu entr'ouverte, laissant entrevoir de petites dents de nacre, et son col frêle qui s'allongeait comme celui d'un oiseau attentif, et ses rougeurs soudaines, lorsque le regard du jeune gentleman français rencontrait le sien. Le parloir à boiseries brunes, à tentures de drap vert, orné de gravures de chasse aux renards et de steeplechases coloriées des tons tranchants de l'enluminure anglaise, se reproduisait dans son cerveau comme dans une chambre noire. Le piano allongeait sa rangée de touches pareilles à des dents de douairière. La cheminée, festonnée d'une brindille de lierre d'Irlande, faisait luire sa coquille de fonte frottée de mines de plomb, et les fauteuils de chêne à pieds tournés ouvraient leurs bras garnis de maroquins. Le tapis étalait ses rosaces, et Miss Alicia, tremblante comme la feuille, chantait de la voix la plus adorablement fausse du monde la romance d'Anna Bolena. De non voler constringere, que Paul, non moins ému, accompagnait à contretemps, tandis que le commodore, assoupi par une digestion laborieuse et plus cramoisi encore que de coutume, laissait glisser à terre un colossal exemplaire du Times avec supplément. Puis la scène changeait. Paul, devenu plus intime, avait été prié par le commodore de passer quelques jours à son cottage dans le Lancashire. Un ancien château féodal à tour crénelée, à fenêtres gothiques, à demi enveloppé par un immense lierre, mais arrangé intérieurement avec tout le confortable moderne, s'élevait au bout d'une pelouse dont le ray-grass, soigneusement arrosé et foulé, était uni comme du velours. Une année de sable jaune s'arrondissait autour du gazon et servait de manège à Miss Alicia à monter sur un de ses ponies d'Écosse à crinière échevelée qu'aime à peindre Sir Edward Landseer et auquel il donne un regard presque humain. Paul, sur un cheval baie-cerise que lui avait prêté le commodore, accompagnait Miss Ward dans sa promenade circulaire, car le médecin, qu'il avait trouvé un peu faible de poitrine, lui ordonnait l'exercice. Une autre fois, un léger canot glissait sur l'étang, déplaçant les lys d'eau et faisant envoler le martin-pêcheur sous le feuillage argenté des saules. C'était Alicia qui ramait et Paul qui tenait le gouvernail. Qu'elle était jolie dans l'auréole d'or que dessinait autour de sa tête son chapeau de paille traversé par un rayon de soleil. Elle se renversait en arrière pour tirer l'aviron. Le bout verni de sa bottine grise s'appuyait à la planche du banc. Miss Ward n'avait pas un de ses pieds andalous, tout court et rond, comme des fers à repasser que l'on admire en Espagne. Mais sa cheville était fine, son coup de pied bien cambré, et la semelle de son brodequin, un peu long peut-être, n'avait pas deux doigts de large. Le commodore restait attaché au rivage, non à cause de sa grandeur, mais de son poids, qui eût fait sombrer la frêle embarcation. Il attendait sa nièce au débarcadère et lui jetait avec un soin maternel un mantelet sur les épaules de peur qu'elle ne se refroidît. Puis la barque, rattachée à son piquet, on revenait lâcher au château. C'était plaisir de voir comme Alicia, qui ordinairement mangeait aussi peu qu'un oiseau, coupait à l'emporte-pièce de ses dents perlées une rose tranche de jambon d'York mince comme une feuille de papier et grignotait un petit pain sans en laisser une miette pour les poissons dorés du bassin. Les jours heureux passent si vite. De semaine en semaine, Paul retardait son départ et les belles masses de verdure du parc commençaient à revêtir des teintes safranées. Des fumées blanches s'élevaient le matin de l'étang. Malgré le râteau sans cesse promené du jardinier, les feuilles mortes jonchaient le sable de l'allée. Des millions de petites perles gelées scintillaient sur le gazon vert du boulingrin, et le soir, on voyait les pies sautiller en se querellant à travers le sommet des arbres chauves. Alicia pâlissait sous le regard inquiet de Paul et ne conservait de coloré que deux petites taches roses au sommet de pommettes. Souvent, elle avait froid et le feu le plus vif de charbon de terre ne la réchauffait pas. Le docteur avait paru soucieux et sa dernière ordonnance prescrivit à Miss Ward de passer l'hiver à Pise et le printemps à Naples. Des affaires de famille avaient rappelé Paul en France. Alicia, le commodore, devait partir pour l'Italie et la séparation s'était faite à Folkestone. Aucune parole n'avait été prononcée, même Miss Ward regardait Paul comme son fiancé et le commodore avait serré la main au jeune homme d'une façon significative. On écrase ainsi que les doigts d'un gendre. Paul, ajourné à 6 mois, aussi long que 6 siècles pour son impatience, avait eu le bonheur de trouver Alicia guérie de sa langueur et rayonnante de santé. Ce qui restait encore de l'enfant dans la jeune fille avait disparu, et il pensait avec ivresse que le commodore n'aurait aucune objection à faire lorsqu'il lui demanderait sa nièce en mariage. Bercé par ses riantes images, il s'endormit et ne s'éveilla qu'au jour. Naples commençait déjà son vacarme. Les vendeurs d'eau glacée criaient leurs marchandises. Les rôtisseurs tendaient aux passants leurs viandes enfilées dans une perche. Penchés à leurs fenêtres, les ménagères paresseuses descendaient au bout d'une ficelle les paniers de provisions qu'elles remontaient chargé de tomates, de poissons et de grands quartiers de citrouilles. Les écrivains publics, en habits noirs, râpés et la plume derrière l'oreille, s'asseyaient à leurs échoppes. Les changeurs disposaient en pile sur leurs petites tables les granis, les carlins et les ducats. Les cochers faisaient galoper leurs haridelles, guettant les pratiques matinales, et les cloches de tous les campaniles carillonnaient joyeusement l'Angélus. Notre voyageur, enveloppé de sa robe de chambre, s'accouda au balcon. De la fenêtre, on apercevait Santa Lucia, le fort de l'œuf, et une immense étendue de mer jusqu'au Vésuve et au promontoire bleu où blanchissaient les vastes Cassini de Castellammare et où pointaient au loin les villages de Sorrente. Le ciel était pur, seulement un léger nuage blanc s'avançait sur la ville, poussé par une brise nonchalante. Paul fixa sur lui ce regard étrange que nous avons déjà remarqué. Ses sourcils se froncèrent. D'autres vapeurs se joignirent au flocon unique, et bientôt un rideau épais de fumée étendit ses plis noirs au-dessus du château de Saint-Elme. De larges gouttes tombèrent sur le pavé de lave, et en quelques minutes se changèrent en une de ces pluies diluviennes qui font des rues de Naples autant de torrents et entraînent les chiens, même les ânes, dans les égouts. La foule surprise se dispersa, cherchant des abris. Les boutiques en plein vent déménagèrent à la hâte, non sans perdre une partie de leurs denrées, et la pluie, maîtresse du champ de bataille, courut en bouffée blanche sur le quai désert de Santa Lucia. Le facchino gigantesque à qui Paddy avait appliqué un si beaucoup de poing, appuyé contre un mur sous un balcon dont la saillie le protégeait un peu, ne s'était pas laissé emporter par la déroute générale, et il regardait d'un œil profondément méditatif la fenêtre où s'était accoudé M. Paul d'Abremont. Son monologue intérieur se résuma dans cette phrase qu'il grommela d'un air irrité. « Le capitaine du Léopold aurait bien fait de flanquer ce forestier et à la mer. » Et passant sa main par l'interstice de sa grosse chemise de toile, il toucha le paquet d'amulettes suspendu à son col par un cordon.